universel.
La carte Visa Orange Monnaie Côte d'Ivoire, valable partout dans la zone UMOA, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, c'est la libre antenne, vous commentez l'actualité de votre choix, vous revenez sur tous les événements, tous les sujets qui vous ont particulièrement marqué ces derniers jours. C'est l'occasion, vous le savez, la libre antenne aussi, de nous interpeller sur des sujets qui ne font pas forcément la une de la presse internationale, des sujets dont on ne parle pas suffisamment, selon vous, dans cette émission ou sur notre antenne. Donc, vous êtes les bienvenus, vous nous rejoignez, c'est à vous de choisir 33 9 693 693 70 et nous allons commencer la libre antenne avec ce sujet qui fait la une. Au Mali, la grogne des enseignants, ils sont en grève depuis le début de la semaine. 11 syndicats d'enseignants ont suspendu les cours et le mouvement est particulièrement suivi. Daouda, bonjour.
Bonjour Juan, comment vous allez?
Très bien, merci de nous appeler, vous aviez envie de témoigner ce matin, d'autant que vous êtes vous-même professeur d'anglais au lycée.
Oui, oui, bien sûr, je suis prof d'anglais au lycée, je suis à Bamako. Et je vais vous dire qu'aujourd'hui, nous les profs maliens, nous sommes vraiment inquiets parce que nous courons vers l'année blanche. Oui, Iran, vers l'année blanche. Parce que les syndicats sont en grève et eux, le gouvernement fait la sourde oreille.
Alors, les syndicats, que réclament-ils exactement? Que réclamez-vous, Daouda?
Nous avions environ 10 points. De revendication. Je peux vous dire que parmi les 10 points, il y a environ 5 points qui sont déjà des vieilles revendications, qui sont déjà acceptées, mais qui demandent d'être appliquées. Maintenant, il y a 3 points de discorde. Parmi ces 3 points de discorde, nous avons ce qu'on appelle les primes de logement. Le gouvernement refuse d'entendre même ça. Ils disent que ce n'est pas légitime, qu'ils n'ont pas besoin de primes de logement.
Primes de logement pour les enseignants, ensuite, oui.
Bien sûr. Et aussi, nous avons demandé qu'on augmente les indemnités des examens. Vous savez, pendant les examens, on a les corrections, on a les surveillances, et on voudrait que le gouvernement revoie à la baisse ces indemnités-là.
Ouais, c'est-à-dire que revoie à la hausse, j'imagine. C'est-à-dire que vous réclamez également des primes pour la correction des examens de fin d'année. D'accord. Donc, on ne va pas détailler évidemment la liste des revendications, même si elles sont importantes pour vous. Ce que vous réclamez, c'est l'amélioration de vos conditions de vie. Vous disiez à l'instant, Daouda, que le gouvernement faisait la sourde d'oreille. Le gouvernement, lui, affirme ne pas avoir les moyens de répondre aux revendications. Il dit, on n'a pas suffisamment d'argent pour ne serait-ce payer les primes de logement à tous les enseignants.
Nous disons que c'est pas une question de moyens. L'éducation, elle doit être prioritaire, normalement, dans un pays qui veut se développer. Et Rouen, quand ils disent qu'il n'y a pas les moyens, moi je vais vous poser une question. Le président de l'Assemblée nationale malienne est plus payé que le président Macron. Vous savez ça?
Ben non, je le découvre. Je ne le savais pas.
Ok, je vous informe. Il faut vous informer, il faut chercher. Et vous savez, nous au moins, on veut, nous les enseignants, on veut des conditions décentes. Quand on dit qu'il n'y a pas d'argent, nous, on ne peut pas être d'accord. Oui. Parce que il y a la corruption dans le pays, les fonds sont mal gérés.
Donc vous dites que l'argent est là, simplement il faut qu'il soit bien géré. Les primes de logement que vous réclamez, Daouda, elles sont estimées par le gouvernement à 55 milliards de francs CFA par an. Et le gouvernement dit, on n'a pas les moyens financiers, on n'a pas l'argent suffisant. Vous parliez d'année blanche, ça signifie quoi, Daouda? Vous êtes prêt à maintenir la grève jusqu'à la fin de l'année scolaire?
Si le gouvernement se montre conciliant, il se montre... c'est pas moins méprisable à l'envers des enseignants. Moi, je crois que nous pouvons avoir une solution pour ne pas avoir une année blanche. Tout dépend du gouvernement, Rouen.
L'année blanche, c'est ce que disait le porte-parole des 11 syndicats il y a quelques jours, Adama Fomba, qui était très alarmiste. Si rien n'est fait dans les prochains jours, c'est inévitable, il y aura bel et bien une année blanche au Mali. Merci Daouda de nous avoir appelé, de nous avoir sensibilisé aux inquiétudes des enseignants maliens. Intéressons-nous maintenant à l'élection présidentielle de juin prochain en Mauritanie. Soumani, bonjour.
Oui,
Oui, bonjour, Juan Gomez.
Mauritanien de Paris, et vous aviez envie de réagir à l'échec de l'opposition qui, après 2 mois de discussion, n'a pas réussi à s'entendre sur un candidat unique en vue de la présidentielle.
C'est ça, exactement, Juan. Ben, les deux candidats, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. En fait, c'est parce qu'ils n'ont pas exactement les mêmes combats politiques. Donc, on a Biram d'un côté qui a un combat vraiment contre l'égalité entre les Noirs et les Arabes en Mauritanie. Mais là, récemment, là, tout récent, ben, le parti de Tawassoul en Mauritanie est parti sur un candidat Sid Mohamed Boubacar, qui fait pas partie de l'opposition. C'est l'ancien Premier ministre de Mauritanie, et puis je pense que c'est un bon candidat pour rassembler tous les Mauritaniens.
Ouais, mais c'est une mauvaise nouvelle ou pas, Soumani, le fait que l'opposition ne parvienne pas à s'entendre sur un candidat unique? Faut quand même rappeler que jamais dans l'histoire de la Mauritanie, il n'y a eu une alliance au premier tour.
Justement, ben, les gens pensent que c'est une mauvaise nouvelle, mais moi je dirais au contraire que c'est une bonne nouvelle qu'on n'a pas un candidat. Parce qu'en fait, le fait d'avoir plusieurs candidats, donc pour moi, ça va éviter aux partis au pouvoir de faire beaucoup de magouilles, parce qu'il y a beaucoup de corruption. Donc le fait d'avoir plusieurs candidats, ça va vraiment diviser les suffrages. Et puis, par contre, ils se sont mis d'accord au cas où si le candidat de l'opposition passe, n'importe lequel passe, ben, à la fin, tout le monde va se mettre derrière lui.
Oui, oui, effectivement, il y a eu cet accord, tout du moins sur le papier, verbal. Je ne sais pas si un accord a été signé, mais l'opposition a convenu que elle soutiendra, elle se ralliera autour de celui qui sera au second tour face au candidat du parti au pouvoir, hein, puisque, rappelons-le, le président sortant, constitutionnellement, n'a pas le droit de briguer un nouveau mandat. Soumani, le réseau téléphone n'était pas très bon avec Paris. En tout cas, on a bien compris votre réflexion. Merci de nous avoir interpellés dans la libre antenne. Bonne journée à vous. Je vous le disais tout à l'heure, vous avez été plusieurs à nous appeler pour commenter cette décision du président congolais Félix Tshisekedi d'accorder la grâce présidentielle, de libérer 700 prisonniers, dont 3 d'entre eux qui sont particulièrement connus, 3 prisonniers emblématiques, des prisonniers d'opinion, des prisonniers politiques. Bonjour Junior.
Bonjour Franck Gomez.
Vous êtes très bien, merci beaucoup. Merci de nous appeler. Vous êtes à Kinshasa, dans la capitale congolaise, et vous disiez au Standard être très content par cette initiative du nouveau président congolais.
Absolument, Franck Gomez. Je crois que c'est il y avait pas mal de doutes, ok, sur les capacités réelles de Félix Tshisekedi. Bon, personnellement, j'ai toujours été très optimiste. En voyant qu'il vient d'une école de la démocratie, à savoir l'UDP. Donc voilà, on ne savait pas s'il pourrait réellement faire sortir les prisonniers politiques. Voilà, il a lancé un message fort, un signal, la libération de Dieu. Bon, Dieu Mindonga l'a pas encore, mais Firmin Yangambi et
Franck Diongo.
Et Franck Diongo. Donc voilà, c'était des personnes qui gênaient à tout prix Kabila. Donc voilà. Et à côté de ça, il y a 700 autres personnes qui ont été libérées des prisonniers politiques. Donc voilà. Ça,
c'était une promesse de campagne. Vous avez l'impression qu'il passe de la parole aux actes?
Absolument. Il y a un changement, Juan Gomez. Depuis janvier, on sent qu'il y a un nouveau vent de démocratie qui est en train de souffler en RDC. Donc l'accès aux opposants, aux médias publics, qui d'ordinaire ne revenaient que de droit aux partis au pouvoir. Donc voilà, je crois qu'il y a des crispations. Et à côté de ça, il y a aussi Moïse Katumbi qui vient de recevoir son passeport.
Son visa.
Qui a été exilé, qui a été interdit d'accéder à la RDC. Donc voilà, je pense que c'est un signal fort. Et je crois que les bonnes nouvelles sont encore devant nous.
Donc la rupture promise par Félix Tshisekedi est en marche.
Absolument. En tout cas, je suis optimiste à 80%. Je crois que voilà, c'est une nouvelle ère. La RDC peut s'appeler à nouveau République réellement démocratique du Congo. Quoi.
Et vous savez quoi, on va en parler lundi. Ce sera le sujet d'appel sur l'actualité. Je vous demanderai, à vous tous qui suivez évidemment de près l'évolution de la situation en RDC, de nous dire si cette rupture annoncée, promise durant toute la campagne électorale par Félix Tshisekedi, si cette rupture est véritablement en marche. Junior l'évoquait à l'instant, ces prisonniers politiques libérés, prochainement libérés, ce ministre du gouvernement sortant accusé de malversation révoqué, encore des responsables d'entreprises publiques suspendus. Dites-nous si, deux mois après la prestation de serment, vous êtes aujourd'hui convaincu par les premiers pas de Félix Tshisekedi. Appelez-nous, commencez à vous inscrire évidemment, et on en parlera longuement lundi matin. Junior, je vous souhaite une belle journée à Kinshasa.
Ok.
Merci, au revoir, merci d'avoir appelé. 33 9 693 693 70. On en parlait hier, les élections législatives au Bénin avec ce scénario inédit depuis l'avènement de la démocratie. Pour la première fois en 30 ans, aucun opposant n'est autorisé à prendre part au scrutin. La commission électorale a estimé que les dossiers de l'opposition ne remplissaient pas les conditions requises par le nouveau code électoral. Bonjour Hubert.
Bonjour Juan.
Vous nous appelez de Lyon, vous êtes béninois, donc vous suivez évidemment de très près la situation politique dans votre pays. Que vous inspire justement ce scénario inédit ?
Oui, comme vous l'avez souligné, c'est un scénario inédit. Dans l'histoire politique du Bénin depuis le renouveau démocratique, on n'a jamais eu une élection sans l'opposition. Et ce sera vraiment un recul. Recul si nous allons aux élections sans l'opposition. Et il y a des voix qui se lèvent pour condamner et l'opposition du fait qu'ils ne se sont pas préparés à temps. Mais je voudrais dire que même avant le vote de cette loi, du code électoral, sur vos antennes, hein, le 1er juin 2018, le député Comlan Léon Arossi a souligné le fait que ce nouveau code vise à affaiblir l'opposition politique. Et au lendemain du vote du code électoral, le porte-parole actuel, M. Abalo, a souligné le caractère discriminatoire et antidémocratique de cette loi.
Oui, mais enfin, excusez-moi, je vous laisse parler, évidemment, et vous êtes là pour vous exprimer, mais en même temps, cette loi, elle a été votée à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un décret imposé par le pouvoir. Ce sont les députés.
Cette loi a été votée à l'Assemblée nationale, mais sans le consensus, en fait. Vous voyez, c'est sans le consensus. Et au lendemain du vote de cette loi, et la minorité parlementaire a fait une déclaration de presse pour demander une seconde relecture de cette loi. Voilà.
Oui. Hubert, aujourd'hui, comment sortir de cette crise ? Évidemment, personne ne souhaite des élections sans l'opposition, à commencer par le président de la République lui-même. Hein, il l'a dit la semaine dernière, je me sens mal à l'aise face à la perspective d'une élection sans parti d'opposition. Que faut-il faire aujourd'hui, Hubert ?
Bah, d'abord, je voudrais croire que c'est de bonne foi que le président l'a dit, hein. Parce que nous savons bien qu'il a la même mise sur les institutions de la République. La Cour constitutionnelle, c'est son ancien avocat qui est là. Et au ministère de l'Intérieur, celui qui est chargé de délivrer le certificat de conformité, c'est son ancien directeur de campagne.
Enfin, il a demandé, la solution ne passera ni par la Cour constitutionnelle, ni par le ministère de l'Intérieur. Il a demandé à l'Assemblée nationale, et vous le savez bien Hubert, au président de l'Assemblée nationale de discuter avec les différents présidents des groupes parlementaires pour essayer de trouver une solution. Visiblement, d'après notre correspondant à Cotonou, et selon des sources bien informées qui lui ont indiqué qu'on s'achemine par consensus vers des élections inclusives. Donc tout le monde devrait au final pouvoir y participer, notamment en mettant en place des lois dérogatoires sur la nouvelle charte des partis politiques. C'est un sujet que nous continuerons évidemment à suivre de près, d'autant que vous avez été très très nombreux hier et la semaine dernière à souhaiter commenter cette situation inédite au Bénin. Merci beaucoup Hubert, bonne journée à Lyon, merci de votre fidélité. Oui. Continuez à nous écouter sur internet à Lyon, rfi.fr. La situation en Algérie, là aussi c'est un sujet qui ne vous laisse pas différents, notamment après la décision d'Abdelaziz Bouteflika de renoncer à briguer un cinquième mandat et de reporter l'élection présidentielle tout en se maintenant au pouvoir. Bonjour Ousmane.
Bonjour.
Bamako, vous nous appelez de la capitale malienne. Vous comprenez, vous, les Algériens qui continuent à manifester ?
Ah, tout à fait. Et pour une fois que le pouvoir algérien ne sait pas très bien sur quel pied danser, excusez-moi l'expression, je crois que les Algériens ont compris qu'il faut continuer. Apparemment, il n'y avait pas de plan B. Et pour ceux qui soutiennent la candidature d'un cinquième mandat pour Bouteflika, ils n'ont pas pensé à un plan B. Et je crois qu'ils sont, après la menace de l'armée qui a parlé de guerre civile et qui ensuite a dit qu'elle comprenait les Algériens, le peuple algérien, entre ces deux déclarations, je crois qu'il y a une petite faiblesse que les Algériens veulent absolument exploiter. Parce que le gouvernement joue au dilatoire. Hein. Bouteflika ne va pas, officiellement, il ne se présente pas, mais il y a un quatrième mandat bis qui va continuer. Et c'est ce que le peuple algérien a compris. Je crois
C'est un quatrième mandat qui risque de s'éterniser, d'autant que le calendrier est particulièrement flou. Hier, le nouveau Premier ministre laissait entendre qu'il pourrait y avoir une élection présidentielle dans un an. Mais pour l'instant, rares sont ceux qui croient à cette promesse.
Oui, justement, tout le monde sait que en Algérie, Bouteflika n'a pas le pouvoir. Il est là pour amuser la galerie seulement. Et ce sont des hommes de l'ombre qui tiennent le pouvoir. Et c'est ceux-là qui ne veulent pas lâcher le pouvoir. Et les Algériens ont compris que tant que ceux-là sont en place, le système Bouteflika va continuer et le peuple algérien ne connaîtra pas la vraie démocratie à laquelle il pense. Et ça, c'est une réalité. Moi, Awan, je crois que c'est un mini printemps arabe qui est en train de se jouer en Algérie. Il faut espérer que cela va se passer en douceur, que le pouvoir comprendra l'appel ou les appels du peuple algérien et que très rapidement, on va mettre en place un système pour reprendre la situation en main et répondre aux aspirations profondes du peuple algérien, surtout de la jeunesse algérienne.
Justement, vous parlez de la jeunesse. Hier, le nouveau Premier ministre, Nourdine Bédoui, a dit que le gouvernement avait entendu les revendications de la jeunesse. On attend la formation d'un nouveau gouvernement, certainement la semaine prochaine. Il serait composé de technocrates et il serait représentatif de la société. Il y aura donc des jeunes et des femmes, a dit hier le nouveau Premier ministre. Merci beaucoup, Ousmane. Bonne journée et excellente fin de semaine à Bamako. Merci de votre fidélité. De Bamako, nous allons à Ouagadougou. Bonjour Alpha.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de l'ARFI.
Merci, on va terminer cette libre antenne avec vous, avec un sujet bien plus léger, mais qui passionne tous les supporters de football, le retour de Zinedine Zidane au Real Madrid.
Oui, pour une fois, j'apprécie le choix de ce recrutement, le retour de Zidane au niveau du Real. Le Real est en train de tanguer à l'heure actuelle, parce que tout simplement, le Real n'arrive plus à marquer depuis le départ de Ronaldo. Mmh. On n'arrive pas à afficher un buteur né comme Ronaldo. Mais je pense que là, c'est une vision salvatrice. Et Zidane sur le banc, en tant qu'ancien buteur, ancien sociétaire du Real, et qui a déjà fait ses preuves, il a tout raclé, donné au Real, et il est parti au bon moment. Mmh. Et il a le petit Vinicius Junior, je le vois comme successeur de Ronaldo au niveau de l'attaque du Real. C'est vrai, je ne suis pas de la Maison Blanche, mais là j'apprécie ce choix et je sais que ça va.
Vinicius Junior, on peut miser sur lui, bien évidemment, mais en même temps, Zinedine Zidane, il voudra des joueurs confirmés. Il voudra peut-être Kylian Mbappé, il voudra peut-être Neymar, il voudra peut-être Eden Hazard. Je vous entends rire, Alpha, mais c'est la réalité. Si le Real Madrid veut remonter, il faut absolument qu'il recrute et que le patron sorte le carnet de chèque en l'été prochain. Quand vous dites que vous n'êtes pas de la Maison Blanche, vous êtes donc supporter du Barça, Alpha, si je comprends.
Je dis félicitations au Barça pour sa victoire éclatante contre Lyon.
Bon, bah écoutez, vous avez le droit. Moi, je suis plutôt du Madrid, mais enfin, chacun son équipe. Allez Alpha, bon week-end et merci de nous avoir appelés. C'est la fin de cette libre antenne. Merci à tous de votre fidélité et de l'intérêt que vous portez à l'émission. Lundi, nous parlerons donc de la République démocratique du Congo. La rupture promise par le nouveau président Félix Tshisekedi est-elle en marche 2 mois après la prestation de serment? Êtes-vous convaincu par les premiers pas du nouveau président? Inscrivez-vous dès maintenant, on vous attend. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine à l'écoute des RFI. On se retrouve évidemment lundi, 8h10 TU.
Appel sur l'actualité vous a été proposé par la carte Visa Orange Monnaie Côte d'Ivoire, valable partout dans la zone.